Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
En direct.
En vacances. Radio. X.
Néo, on n'est pas en vacances à Radio X. C'est juste les... J'allais dire, c'est juste les meilleurs qui sont en vacances, mais... J'aimerais ça être des meilleurs, fait que je vous dirais pas ça.
Il y en a qui sont de retour de vacances. Bon, je me qualifierai...
Les meilleurs sont de retour de vacances?
Non, je ne me qualifierai pas de meilleurs, mais il y en a qui sont de retour pareil.
En fait, maintenant, tu fais partie quand même de l'équipe du matin, donc les meilleurs des meilleurs.
Ah oui, premier trio.
Bonne chance pour la rentrée à l'automne avec Dominique Moret et Dan Gravel. Nous, ben 14h02, on a décidé de prendre les choses au sérieux à Radio X, on parle des vraies affaires. On a eu beaucoup de plaisir à parler avec Maître Bellemare un peu plus tôt dans l'émission. Même chose avec Olivier Teasdale qui mène un combat pour, en fait, l'honneur de son père. Dans les choses qui ont marqué quand même la fin de semaine, les célébrations entourant les 50 ans des Olympiques de Montréal. Nick, juste avant la pause, tu me disais que t'étais pas né. Moi, j'étais pas très vieux non plus. J'avais 5 ans et des poussières. Mais on se souvient quand même là, de certains moments, notamment Nadia Comaneci, qui était à Montréal d'ailleurs en fin de semaine, et qui disait que ça prendrait d'autres Olympiades à Montréal. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais une chose est sûre, c'est que Paul Holl a sûrement des réponses à nos questions. Paul Holl, c'est un spécialiste en fait des Olympiques. C'est un homme qui s'est intéressé au sport en général. C'est un auteur qui a écrit notamment un livre que j'ai à la maison sur Louis Cyr et que je contacte à l'occasion comme ça pour en apprendre davantage sur des sujets pointus comme les 50 ans des Olympiades. Bonjour Paul Holl, comment allez-vous?
Bonjour, ben Paul Holl, il va bien. Je vous entendais tantôt essayer de mettre une hiérarchie dans les meilleurs animateurs. Ben, je vous souhaite bonne chance pour ceux et qui sont en vacances et pour ceux qui vont nous revenir à l'automne.
Ben, vous êtes bien aimable, Paul.
Je vous en prie.
Je présume que je peux vous appeler Paul pour faciliter l'entrevue.
Avec grand plaisir, ça va me permettre de gommer certains chiffres sur la chronologie de l'âge.
juste avant, vous étiez à Montréal lors des Olympiques, parce que je le sais, vous êtes né à Strasbourg,
oui,
il y a quelques années de ça, 1940, ça nous ramène à la vérité. Mais tout ça pour dire qu'en 1976, qu'est-ce que vous étiez où? Vous faisiez quoi?
J'étais impliqué depuis 1970, un peu éloigné, mais me rapprochant au fil des années, au gouvernement du Québec, avec l'équipe qui était responsable, on va mettre ça entre guillemets, d'accompagner, si vous voulez, le comité organisateur des Jeux. Rappelons qu'à l'époque, tout le monde est tombé en bas de sa chaise parce que deux choses marquaient principalement le Québec. La première, si on se met du côté du journalisme de sport,
oui,
tout le monde déplorait le fait que la plupart des journalistes, même majeurs, si on fait l'exception de René Lecavalier, de quelques gars qui étaient à l'équipe des sports de Radio-Canada, il y avait une méconnaissance générale de la culture olympique.
Ah oui?
À tel point...
La couverture était poche?
Écoutez, non, pas la couverture elle-même, je parle de 70, lorsque le maire Drapeau,
ah oui, okay,
à la surprise générale, nous annonce que Montréal venait de surpasser Moscou par une vingtaine de voix. D'ailleurs, je connais le chiffre final. Tout le monde le connaît aujourd'hui. Je crois que ça a été 42 pour Montréal et 28 pour Moscou. Alors que Moscou menait au premier tour, le maire Drapeau a fait un véritable miracle là-bas en défendant le dossier de façon absolument extraordinaire pour ramener cette candidature. Il faut bien dire une chose.
Oui.
Ça faisait depuis 1932 que Montréal essayait d'avoir des Jeux.
Ah ça, je savais pas ça. On postulait à l'infini comme ça depuis 1932.
On a essayé d'avoir les Jeux d'hiver en 32. Ils ont eu lieu à Lake Placid. C'était sous Camillien Houde.
C'est vrai.
En 36, on a encore essayé d'avoir les Jeux d'hiver sous Camillien Houde. Et c'est Garmisch-Partenkirchen, excusez-moi de le prononcer à l'allemand.
Ben oui.
En allemand, je le parle.
Alors,
Garmisch-Partenkirchen, c'est eux qui l'ont eu, mais il n'y avait pas véritablement de surprise. Le Troisième Reich, qui déjà existait à ce moment-là, avait eu les Jeux d'été en 36 à Berlin. Et forcément, ils avaient déjà négocié, acheté, comme on dit dans le langage un peu d'analyste, les Jeux d'hiver en Allemagne également. En 56, en 60, en 72 et 76, Jean Drapeau, maire de Montréal, a successivement présenté des candidatures. En 56, c'est Melbourne qui les a eues en été. En 60, évidemment, c'est Rome, avec le début de la télévision à ce moment-là des Jeux.
Oui.
Ça a complètement changé la donne. En 72, eh bien, c'est Munich. Et Munich, on se rappellera des Jeux tragiques avec, évidemment, septembre noir qui avait infiltré le village olympique, tué l'équipe de lutte israélienne.
Ça reste assurément l'Olympiade la plus triste de l'histoire.
L'Olympiade très sanglante, et nous avions entre autres deux Québécois et deux de la région de Québec, Jean Barré et son frère Denis, qui étaient en canot-kayak. Les deux hommes sont devenus des hommes d'affaires de la région. Un avait été propriétaire du manoir au lac Beauport, l'autre d'une belle restauration sur la rue Saint-Jean.
Oui.
Les deux hommes étaient là, ils avaient été les témoins directs de ces fameux prises d'otages et du sort sanglant qui s'en est suivi. 76, finalement, à la sixième tentative, après près de 44 ans de tentatives, Jean Drapeau ramène les Jeux. Mais rappelons-nous que les Jeux qu'il nous ramène,
oui,
en mai 70, quatre mois plus tard, c'est la crise d'octobre.
Oui, c'est vrai. Ça correspond d'ailleurs à ma naissance. Mais pour revenir aux Jeux olympiques de 76, on a compris, oui, qu'ils n'ont pas été aussi violents, meurtriers que ceux,
non,
de Munich.
Non.
Il reste quand même... est-ce qu'on peut tresser un bilan, là, 50 ans plus tard, j'imagine que oui. Là,
oui,
on se rappelle de Nadia Comăneci, on se rappelle de certaines épreuves qui ont marqué l'imaginaire québécois. On se souvient aussi du triste chantier, en fait, qui n'avait pas été complété. Ah. Le triste chantier du stade olympique. Le mât n'était pas, en fait, complètement érecté. Je vais utiliser le mot...
Il n'était pas complètement en érection.
C'est ça, il n'était pas finalisé. Et puis, on se souvient quand même de jeux qui avaient été marqués du fait que le Canada avait été la première nation, le premier pays à ne pas revendiquer une médaille d'or en étant hôte d'une Olympiade.
Affirmatif. Mais en même temps, à l'interface de cette présentation que vous faites, qui est absolument juste, à l'interface, ça a sonné un réveil comme jamais.
Dans l'histoire du Québec, vous voyez ça comme un moment charnière.
Dans l'histoire du Québec et dans l'histoire du Canada. Ça, moi, j'ai toujours classé historiquement les Jeux de Montréal comme un facteur à la fois de réveil et d'un réveil brutal. Et 1984 comme le moment où le Québec a décidé que le temps de la participation était terminé et la possibilité de monter sur les podiums arrivait. Et ça, d'un côté avec Sylvie Bernier, aux Jeux d'été
de Los Angeles.
Los Angeles,
oui, oui.
Et de Gaëtan Boucher en hiver. Ce jour-là,
oui,
politiquement et sportivement, il y a eu une décision au Québec qui a été prise à l'effet que plus jamais le Québec se contenterait, comme on dit, d'être en queue de peloton.
Fini le petit pain sec, là.
L'histoire le démontre maintenant de façon fort élégante depuis ce temps. Le Canada, bon, évidemment, le Québec, on s'entend, au moment du sport, fait partie de la délégation canadienne,
oui,
de façon continue, n'a jamais été en bas du 15e rang sur les 200 pays qui participent. Vous allez me dire là-dessus qu'il y en a 120 de ces pays-là qui font de la figuration, nonobstant.
Oui.
Nonobstant, le symbole des Jeux olympiques est celui de la participation. Bon, bien sûr que lorsque le Cap-Vert va aux Jeux olympiques, on ne parle pas du soccer récemment, le miracle...
Oui.
De soccer, mais depuis ce temps, le Québec fournit en moyenne entre 25 et 30 % de chacune des délégations canadiennes qui s'est présentée tant aux Jeux d'hiver qu'aux Jeux d'été. Ça, c'est le côté positif de toute cette aventure.
C'est la différence, en fait, qu'on peut tracer entre la période olympique de 76 et jusqu'à 84, là, vous la situez comme ça. Il y a un avant puis un après. C'est là,
oui,
qu'on le situe.
Passez-moi l'expression, l'anglicisme, c'était le wake-up call absolu. On s'était fait...
Le réveil national.
On s'était fait insulter une semaine avant, au Québec, dans les journaux du Québec, par Mme Monique Berliot, qui, à l'époque, était ce qu'on peut qualifier aujourd'hui en termes de poste comme directrice générale du CIO.
Donc, qu'est-ce qu'elle avait dit sur le Québec qui vous met encore en grogne comme ça?
Elle avait dit que nous n'avions aucune culture de sport et nous ne comprenions rien aux Jeux olympiques. Écoutez, ça a fait 8 colonnes. À l'époque, il y avait le Montréal.
Elle n'écoutait pas le hockey, la madame, là?
Bon, effectivement, mais c'était l'allure que ça donnait. C'est la raison pour laquelle le Conseil du Trésor du gouvernement du Québec avait fait une entorse, je dirais plutôt une exception à la règle, n'avait demandé aucun justificatif lorsque M. Gilles Houde, qui à l'époque était l'adjoint parlementaire de M. Robert Bourassa et,
oui,
qui portait le dossier des Jeux pour le gouvernement, m'avait demandé, moi et une équipe que nous étions très près, de préparer un texte, une présentation au Conseil du Trésor pour financer 12 journalistes du Québec, que les médias désigneraient eux-mêmes. On a laissé le choix à la presse, au Soleil, au Devoir, à d'autres médias, pour envoyer pendant 15 jours la délégation, tout frais payé, pour visiter les installations olympiques en Europe, principalement en France, en Allemagne, et pour apprendre le lexique olympique et la compréhension générale des fédérations sportives.
On avait fait nos devoirs.
Qui se présentaient aux Jeux. Pourquoi? Parce qu'on avait la réputation d'être des spécialistes en hockey puis en baseball, et pour le reste, c'était nul, tout simplement. Alors, sont arrivés dans ce monde de façon absolument spectaculaire les Richard Garneau, les Serge Arsenault, les Guy Desormeaux.
Les voix qu'on ferme les yeux, on les entend encore. C'est des hommes qui ont vraiment été signifiants dans l'histoire du Québec, du moins dans son développement moderne, avec l'arrivée de la télé couleur, faut le dire.
Absolument. Ces gens-là détiennent le record du nombre de Jeux olympiques qu'ils ont couverts en tant que journalistes, autant des Jeux d'hiver que d'été. Richard Garneau a encore le record absolu. Donc, ça a été quelque chose de formidable. Un des journalistes du journal Le Soleil, qui, à mon avis, était un des grands journalistes de sport que le journal Le Soleil a eu, Jean Saint-Hilaire, faisait partie de cette toute première équipe qui avait été sensibilisée, si vous voulez, à la lexicologie, à l'organisation, la compréhension de l'organisation des Jeux olympiques.
Et la couverture de facto de ces Jeux-là, parce que
absolument.
Ça demande une certaine précision. C'est pas un journalisme accessible. Qu'est-ce que vous avez pensé, Paul Holl, durant les festivités, en fait, durant la fin de semaine, concernant les 50 ans des Olympiades de Montréal, de la sortie de Nadia Comăneci, la reine des Jeux de Montréal,
ouais, ben
qui, à l'époque,
ouais,
avait eu une note parfaite, là, une première, une gymnaste qui est demeurée, en fait, dans le cœur des Québécois, mais aussi d'un oui. point de vue là, planétaire, oh, ben, là, un chouchou, une chouchou. Elle souhaite une autre Olympiade à Montréal, 50 ans après les Olympiades de Montréal de 76. Est-ce que c'est un projet qui est viable? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée?
À chaud, c'est une fausse bonne idée. Je vous le dis à chaud, là.
Oui, oui.
Évidemment, vous allez me dire après ça, comme tous les gouvernements, bon, on va mettre sur pied un comité pour on va réfléchir. Mais le fait est qu'à chaud, c'est une bonne, mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, d'abord, les problèmes du Québec sont très, très loin de pouvoir prioriser une telle initiative.
Pourtant, la réfection du stade à presque 1 milliard, ce serait logique de revenir avec une autre Olympiade.
Non, écoutez, 1,6 milliard à l'époque. Si vous actualisez les dollars de cette époque-là,
oui.
On s'était ramassé qu'un déficit aujourd'hui, ce serait de 6 milliards. Et tout ça, 80% de ce 6 milliards serait lié directement aux dépenses de la construction du stade olympique lui-même et de la périphérie. Rappelons aux gens...
Comme le vélodrome et tout, là?
Si vous allez à Montréal maintenant, le vélodrome qui était là à l'époque n'est plus là maintenant. La piscine olympique a été transformée. Il y a toujours le bassin de plongeon, mais ils ont démocratisé le lieu, ils ont réorganisé l'endroit, etc. Le stade olympique sert à rien à l'heure actuelle, on se comprend bien.
Ça, c'est vrai, ça ne sert pas à grand-chose.
Pour le protéger, à mon avis, ce stade-là, bien sûr, a une histoire. Il appartiendra à tout jamais à l'histoire du Québec, du Canada et du monde, disons-le comme c'est. Mais il y a
a-t-il un avenir, Paul? Vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas d'avenir pour le stade olympique.
Il y a un avenir qui est incertain. À l'heure actuelle, personne encore n'a répondu. Attendons la campagne électorale de septembre pour voir si quelqu'un va lever le petit doigt pour dire, by the way, à combien évaluez-vous actuellement le coût d'un nouveau toit et de tout ça? Les chiffres grimpent. D'une semaine à l'autre, on ajoute 10 millions. On est rendu dans les 400 et quelques millions à l'heure actuelle, ce qui pourrait représenter aisément plusieurs édifices, si vous voulez, pour l'itinérance et les sans-abri.
C'est un bon point.
C'est simple que ça, là.
Et est-ce que maintenant, en 2026, recevoir les Jeux olympiques pour une ville comme Montréal, j'ai pas l'impression que ce serait autant historique, c'est autant marquant, j'imagine.
Non. Absolument raison. Je partage votre avis là-dessus. La raison est fort simple. À l'époque, bien sûr, malgré le fait que les Jeux étaient déjà télévisés, les Jeux de Montréal ont amené quoi de nouveau? Ils ont amené les cartes de télévision, c'est-à-dire des cartes de golf qui ont été transformées par le génie d'un homme de Radio-Canada qui s'appelait Guy Desormeaux, qui ont permis de couvrir en direct, pas par pas, le marathon. C'était la première fois de l'histoire que cela se passait. Et depuis ce temps, évidemment, la technologie ayant évolué, mais c'est à Montréal que cette technologie-là a été mise à l'épreuve avec très grand succès.
Bon. Donc, on a innové. Donc, le bilan de Montréal, on ne peut pas seulement que s'attarder au fait qu'on n'avait pas gagné de médaille d'or
loin de là.
En, en sol canadien, zéro récolte de l'or, ça avait été quand même pas honteux, mais un peu décevant quand même. Il y a d'autres acquis, là, entre autres la façon de retransmettre à la télévision les Jeux. C'est à Montréal qu'on a trouvé de bonnes idées.
Il y a des milliers de jeunes, garçons et filles, à l'époque, en 1976, qui instantanément ont décidé qu'un jour ils seraient des athlètes olympiques en voyant les Jeux de Montréal, ou alors, si la chance les favorisait, les parents ayant des billets peut-être à l'époque, qui ont eu le plaisir et le bonheur d'aller au stade et de voir directement
les épreuves.
Des exploits immenses. Il y a eu des exploits. On a parlé de Nadia, en fait, elle a carrément, mur à mur, occupé les médias complètement. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a eu des performances extraordinaires.
Allez-y donc de quelques-unes.
Dans le stade, il y a eu Bruce Jenner avec sa médaille d'or au décathlon.
C'est vrai, Bruce était là.
Aujourd'hui, il porte un autre nom et est devenu un transgenre. Mais Bruce Jenner a créé des formes. Il a donné un exemple extraordinaire. On a développé le décathlon au Canada et on a eu un champion olympique du décathlon au Canada. On a régulièrement une médaille au décathlon depuis plusieurs Olympiades, grâce, entre autres, à ce Bruce Jenner qui a fait des petits, comme on dit en bon français. Là.
Et qui défrait encore la manchette, en fait, là, depuis son changement d'orientation.
Ça, c'est autre chose.
Oui, c'est pas... Qu'est-ce que vous pensez des Olympiques, là, des dernières Olympiades? Parce que, bon, on célèbre les 50 ans des Olympiques, mais on peut quand même entamer une réflexion sur ce qu'on a vu dans les derniers Jeux olympiques. À Sochi, on avait comme trouvé que ça avait été la dépense totale. Là, on a un peu... la démesure n'est plus la référence. On a eu des Jeux un peu plus humbles, particulièrement en Asie, où est-ce qu'on a vu qu'on était capable de faire de grands Jeux avec peut-être un peu moins de moyens que ce que les Russes avaient déployé à l'époque. On est revenu aussi sur le continent nord-américain. Qu'est-ce que vous pensez de l'esprit olympique en 2026?
L'électronique qui fait pour beaucoup dans la réflexion qu'on doit faire à l'heure actuelle sur l'avenir, enfin, le présent, on est quand même en 2026, il y a des Jeux dans 2 ans, sous le régime Trump, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner.
Los Angeles.
Il a été capable d'intervenir sur un carton rouge. Il aurait peut-être été capable d'intervenir sur l'ensemble des Jeux.
C'est de l'interventionnisme ciblé quand même, ce que Trump a fait en fin de semaine auprès de la FIFA.
Oui, bien écoutez, moi, pour moi, là, ça c'est une journée sombre à marquer d'une pierre noire.
Si la FIFA n'a pas été à la hauteur. Ils ont plié trop vite, selon vous, Paul Holl?
C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. J'aurais cru, honnêtement, qu'il y aurait un boycott instantanément.
Une levée de bouclier, au moins.
Une levée de bouclier, mais pas à peu près. À l'heure actuelle, on est rendu à un niveau, malheureusement, dans ce sport, qui a été décrié à cause de l'ancien président. Je pense qu'on va maintenant le mettre sous la loupe pour d'autres raisons, qui seront des raisons d'éthique et de morale, avec l'actuel président. Il y a des blagues qui se font sans que les gens soient vraiment informés dans les réseaux sociaux, où les gens disent carrément, bon, ça a coûté combien de millions et quel était le transfert de ces millions-là qui s'est fait rapidement d'une banque à l'autre. Enfin, alors, c'est des blagues comme ça qui circulent à l'heure actuelle.
Moi, je suis sur un groupe d'échange des Nordiques de Québec, des partisans de Devant l'Éternel, et on faisait à la blague durant la fin de semaine la blague suivante. On se disait, on aurait dû contacter Robert Bourassa pour que le but d'Alain Côté soit bon. En 87, c'était Robert Bourassa, le PM.
Oui, bien écoutez, à l'époque, M. Bourassa, vous n'en parlez, mais j'aimerais quand même apporter un petit éclairage
sur
les fameux Jeux de 76 qui sont, en dépit de toutes les critiques, et moi j'ai écrit un livre, à ce moment-là j'étais absolument furieux de ce dont j'étais témoin, et c'est de là que j'avais écrit La guerre olympique au lendemain des Jeux de 76, livre qui avait fait pas mal de bruit en Europe.
Publié en 77.
Cela dit, lorsque les Jeux arrivent, 3-4 mois, on l'a mentionné tantôt, 4 mois après, c'est la crise d'octobre. 2 ans après, au Québec, mur à mur, c'est la fameuse grève du Front commun et c'est l'emprisonnement des chefs syndicaux. Les 3 chefs syndicaux, Pépin, Charbonneau, puis
ça brassait dans le temps, là.
Celui qui était très drôle, en fait, Louis Laberge, voilà.
Oui, M. Laberge, on se souvient de son franc-parler.
Ça crée au Québec une onde de choc terrible et particulièrement dans la classe ouvrière et probablement avec raison. On ne partira pas sur l'analyse politique de fond, mais je dis simplement probablement avec raison. En 1973, il y a une autre élection et cette élection-là se fait pour consolider certains acquis et certains projets que le gouvernement marquait de l'avant.
Notamment les Olympiades.
55 % du vote va aux libéraux, ce qui était 10 % de plus que le vote de 70. En 70, Jean Drapeau, lorsqu'il est revenu d'Amsterdam, a été plébiscité. Et je vous garantis que si c'était présenté en politique, il n'y aurait pas eu besoin de n'importe qui d'autre pour se présenter. Il aurait été carrément élu mur à mur. Aussi simple que ça.
Une popularité enviable pour les autres politiciens, oui, en fait, de notre époque.
C'est rien. Là, je vous le dis, ça en était une vraie shot. Rien à voir avec Marcel Aubu lorsque les Nordiques étaient rentrés dans...
Crinquez-moi pas, là.
Non, je vous le dis tout simplement comme ça. Et en 76... Résultat de tout ça, 3 mois, 4 mois après les Jeux, évidemment, vous me direz, Paul, rappelle-toi, 15 novembre 76, bien entendu, le Parti québécois arrive, la campagne du Parti québécois a descendu en flammes le comportement du gouvernement Bourassa sur l'ensemble de ses dossiers, au niveau des syndicats, au niveau de projets qui n'ont pas été financés, au niveau d'un déficit incroyable qui était en train de s'accumuler.
Mais Bourassa a quitté la politique quelques années suite à ça, là, ça a été vraiment un désaveu.
20%, les libéraux ont perdu en 3 ans 20% du vote, aussi simple que ça. À l'élection de 76, ils ont été balayés. En 73, lorsque l'élection a eu lieu, c'est une élection entre deux mandats réels, écoutez, 55 % du vote, il y avait élu 102 députés des 110 qu'il y avait à l'Assemblée nationale à l'époque. C'était mur à mur, il n'y avait rien. Il y avait 6 gars du PQ à l'époque qui étaient là parmi les...
C'était un raz-de-marée rouge.
Tout simple que ça. Tout simple que ça. Et donc, après, la vérité a commencé lentement à sortir. Lorsque l'enquête Malouf est sortie, tranquillement, pas vite, les observateurs, dont j'en étais un à l'époque, ont dit carrément, il n'y a que 50 % de la vérité qui est apparue à travers le rapport du commissaire Malouf. Aussi simple que ça, un projet fantastique qui faisait l'histoire et de Montréal et du Canada, et du Québec et du Canada, s'est transformé, à l'époque en tout cas, à courte vue, en un désastre. Désastre financier, bien entendu, désastre politique et désastre social.
Pensez-vous qu'on aurait, Paul, l'expertise, la volonté politique et aussi citoyenne de tenir des Jeux olympiques hivernaux, j'imagine, à Québec? C'est un rêve qu'on caresse depuis longtemps. Depuis 2008, en fait, on se pose des questions sur...
Je faisais partie
de Québec. Je le sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que la candidature de Québec serait encore pertinente à notre époque?
Autant qu'elle le fut à l'époque.
Autant celle de Montréal vous semble pas du tout crédible ou nécessaire, autant celle de Québec vous semble...
La candidature de Québec aurait ceci de particulier, si une certaine vision, évidemment, l'accompagnait, qu'elle serait de façon... Elle serait nécessairement plus accessible, plus faisable sur le plan financier, qu'on ôterait le gras autour de toutes les fantaisies que l'on finance pour faire plaisir aux uns et aux autres, surtout au formidable lobby qu'il y a toujours autour des Jeux,
oui,
par les fédérations sportives. Et moi, je pense que Québec a tout ce qu'il faut pour présenter des Jeux d'hiver. Lesquels Jeux sont de toute façon beaucoup moins coûteux que des Jeux d'été, par définition.
Vous avez raison.
Le seul obstacle demeurerait encore, bien entendu, c'est celui de la montagne.
Oui, le mont Allégorie.
Au niveau du dénivelé, mais avec les moyens modernes maintenant, il n'est absolument pas hors de portée que l'on puisse avoir des Jeux d'hiver à Québec, avec Québec comme avec le centre et avec des périphéries qui pourraient aller, ma foi, soit du côté des Chic-Chocs, ou alors juste de l'autre côté de la frontière avec un partage avec Lake Placid. Je lance ça comme ça.
Vous n'êtes pas contre l'idée d'un petit partenariat avec Lake Placid?
Avec précaution. Évidemment, Trump ne sera plus là et on pourrait espérer qu'il y aurait un grand souffle de libération sociale et idéologique de l'autre côté de la frontière.
Paul, merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. Je sais que ça vous a peut-être semblé un peu court. Nous, on a étiré le maximum de temps qu'on pourrait vous octroyer. Le sujet est passionnant. Les 50 ans des Olympiades de Montréal, c'est vraiment un sujet qui vous habite. Je vous rappelle aux auditeurs quand même, Paul, vous avez 85 ans. Je ne peux pas faire autrement que vous demander est-ce que la santé va bien?
Écoutez, j'étais il y a 2 heures et j'ai écourté la chose pour venir ici. Moi, je suis de 4 à 5 fois par semaine au gym.
Oh yeah!
utiliser la formule miracle pour remettre les choses en perspective. Et je regarde les choses simplement et j'évite le stress, peu importe d'où qu'ils viennent.
Peu importe la provenance. Mais j'espère qu'on ne vous a pas trop stressé aujourd'hui, Paul.
Non, pas du tout, au contraire.
Et puis, célébrons les 50 ans des Olympiades, puis célébrons-le avec des gens qui les ont vécues. Vous avez été un acteur particulièrement impliqué dans cette mouvance-là des Olympiades à Montréal. Je vous souhaite longue vie, Paul Holl, et puis je vous souhaite surtout un bon été au gym et à l'extérieur. Merci.
Et je vous dis ceci, j'ai en main présentement le flambeau olympique sur lequel j'avais inscrit en noir 16 juillet 1976. J'avais couru la flamme olympique le long de la côte Atwater à Montréal.
Vous avez la flamme olympique dans vos mains au moment où vous nous parlez?
Pardon?
Vous avez la flamme olympique de jadis dans vos mains?
Les derniers coureurs de la flamme olympique en 1976, on nous remettait le flambeau avec lequel on courait.
C'est un beau souvenir, ça. J'imagine magnifique. Que c'est impossible de l'acquérir. Ça va être parmi vos souvenirs jusqu'à la fin.
Oui, ça, absolument.
Merci beaucoup, Paul Holl.
Hey, merci, puis n'hésitez pas, il y a quelque chose, appelez-moi.
Ah, bon, je vais vous rappeler cet été, Paul. Comptez sur moi, je suis toujours à la recherche d'invités loquaces et surtout pertinents. Paul Holl qui prenait la parole aujourd'hui, bon, vous l'avez compris, pour les 50 ans des Olympiques. Et c'est un grand plaisir de parler avec lui. Moi, je fais plusieurs décennies là, que je tends toujours une perche en direction de Paul Holl pour différents prétextes, que ce soit les hommes forts du Québec ou encore les Olympiques. C'est toujours de bons moments qu'on passe avec lui. Nous, on prend une petite pause parce qu'à Radio X, c'est comme ça que ça marche. 14h28, Nick et Gary, on vous promet d'être de retour après celle-ci.
Ouellette, en direct.
Radio X.